Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et soyez les bienvenus à Marcher vers le bien-être. Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. Nous allons apprendre à marcher. Oui, oui, à marcher, ou plutôt à bien marcher. Au cours des épisodes précédents, nous nous sommes penchés sur la marche afghane, la marche sans trace, le Shinrin-yoku et la marche pèlerine. Il est grand temps de savoir si nous marchons correctement pour tirer tous les bienfaits de ces différents types de marches. Pour nous guider dans notre exploration de l'art et de la technique de bien marcher, je suis ravi d'accueillir de nouveau à notre micro Marie-Lyne Étier de Santé à pied, accompagnée de Michel Desgagnés, également de Santé à pied, et tous deux entraîneurs de marche. Marie-Lyne, Michel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
C'est un plaisir pour nous.
Michel, commençons par vous et commençons par le commencement. Pourquoi est-il si important de marcher? Pourquoi marcher?
Tout simplement, Denis, parce que nous marchons de moins en moins, et cela globalement, au niveau de la planète. Assez curieusement, on dirait que le développement économique, je parle là entre autres en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, s'accompagne du fait qu'on marche moins et on roule plus en automobile. Ici, dans les pays développés, on roule en automobile et on est beaucoup sur nos écrans ou à la télévision, à regarder la télévision. Donc, c'est tous des activités extrêmement passives. Et il y a quelques mois, l'Organisation mondiale de la santé lançait un cri d'alarme pour dire que la sédentarité actuellement est tellement en expansion qu'elle dépasse le tabagisme comme cause de mortalité. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais absolument étonné, essoufflé même, c'est le cas de le dire. Et la sédentarité, comme dit l'Organisation mondiale de la santé, c'est un des principaux facteurs des comportements qui causent des maladies. Les maladies, entre autres, cardiaques, évidemment, toutes les cardiopathies, les accidents cérébro-vasculaires qui deviennent de plus en plus communs, de même que le diabète de type 2, qu'on voit aussi, ça s'accompagne souvent aussi de d'autres dérèglements. On marche pas, puis on mange mal. Alors, on a vraiment la formule idéale pour accroître la morbidité. Maintenant, en termes de sédentarité, l'OMS estime que la sédentarité, c'est 10 heures par jour assis.
10 heures
par jour assis et moins de 5000 pas dans une journée. Ça, c'est la sédentarité telle que l'OMS le voit. Or, c'est un adulte sur quatre actuellement dans le monde qu'on pourrait qualifié de sédentaire. Et le pire, c'est que c'est 4 adolescents sur 5 qui ne respectent pas, en fait, ce que pourraient être les recommandations minimales de l'Organisation mondiale de la santé, qui suggère de marcher, si possible, faire une activité d'intensité modérée de l'équivalent d'environ 30 minutes par jour. On est encore très, très loin du compte. Et il y a des gens, par exemple, qui vont passer effectivement 10 heures assis dans la journée, dépendamment du travail qu'ils font, mais le week-end, ils vont profiter du samedi ou du dimanche pour aller faire un petit jogging de 10 kilomètres.
Oui.
Ça ne fait pas des nomades pour autant. Ça reste très sédentaire. En fait, on devrait toujours, à tous les jours, considérer que l'activité physique fait partie de l'hygiène personnelle.
Donc, la marche, peut-on la considérer comme une activité physique à part entière?
Oui, c'est en fait, selon l'Organisation mondiale du commerce, c'est une activité à intensité modérée. On va se comprendre, là. Actuellement, il y a l'inactivité ou il y a le surentraînement. Et quand on regarde les différentes recherches scientifiques, les deux éléments se convergent pour donner des problématiques de santé. Hein? Que ça soit chez les joggeurs ou les coureurs, par exemple, il y a effectivement des problématiques d'usure prématurée qui se passent. Donc, oui, la marche est vraiment, à cet égard-là, l'exercice le plus complet. Mm-hmm. Dans le fond, mm-hmm. pour le corps humain. Et en même temps, ben, c'est un sérieux bon coup de main aussi pour, je dirais, moi, la détente. Et quand on va marcher et qu'on arrive à se détendre, on a vraiment une expérience holistique, dans le fond.
Quels sont les autres bienfaits de la marche au quotidien?
Bon, alors au quotidien, on va renforcer son système osseux parce que l'activité de la marche est une activité de portance. Donc, effectivement, ça nous permet de renforcer le système osseux. Le système musculaire, évidemment, on n'en parle pas parce que forcément, on met les muscles en opération. Mais ça va aussi au niveau du centre nerveux, le système nerveux autonome, puisqu'effectivement, la marche nous amène à nous calmer. Et donc, au niveau du système nerveux autonome, on peut là parler non pas du sympathique et de l'adrénaline, mais plutôt du parasympathique, qui est en fait une hormone, le cytocine. Le cytocine, c'est une hormone un peu qu'on pourrait appeler du bonheur, un peu comme la dopamine. Et effectivement, elle a un avantage, c'est de nous calmer, et on en a bien besoin dans notre société de consommation.
Parce que notre société est imbue de stress, et
oui,
le stress
absolument.
Est source de maladies physiques, mentales et autres, n'est-ce
on
pas?
On aurait beau, d'ailleurs, Denis, parler de tous les avantages de la marche, ils sont très nombreux, évidemment, sur le plan de l'hypertension artérielle, c'est excellent, d'ailleurs, mais encore faut-il bien marcher?
C'est la question.
Absolument.
Encore faut-il bien marcher parce que nous marchons tous depuis notre jeune âge, 12 mois, 14 mois, 18 mois, selon les individus. Donc, ce que vous dites, c'est que nous marchons tous, mais nous ne marchons pas nécessairement bien. Donc, est-ce dire qu'il faut réapprendre à marcher?
Bien, souvent, oui, parce qu'avec les années, avec les décennies, dépendant de notre mode de vie et d'autres facteurs aussi, on prend des mauvaises habitudes dans la marche sans en prendre conscience. Ça vient tout inconsciemment et notre cerveau enregistre ces mauvaises habitudes comme ben c'est la normalité et donc on se remet pas en question. Et c'est souvent lié au fait, on en parlait de la sédentarité. Effectivement, quand on est sédentaire, on est assis, on est affaissé, nos épaules se voûtent vers l'avant, on ferme notre poitrine, on respire moins bien, on a la tête baissée sur nos écrans, nos téléphones. Alors, tout ça va amener une mauvaise posture. Et quand on marche, bien, on reprend ces mêmes schémas corporels et voilà, on, sans s'en rendre compte, on marche pas correctement, pas avec la bonne posture, pas... Et aussi... Savoir marcher, c'est utiliser l'ensemble de tous nos muscles. On ne marche pas qu'avec les jambes, on marche avec tout le corps. Et souvent, et nous, on fait une différence entre la marche passive et la marche active. Parce que dans la marche passive, justement, on ne se tient pas, la colonne vertébrale est affaissée, les épaules sont voûtées... la tête est baissée, on regarde au sol, et tout ça fait que on subit notre poids à chaque mm-hmm. pas, alors que dans la marche active, on se tient, on allonge notre colonne vertébrale et on marche avec tous nos muscles, autant les fessiers que les orteils. Et on va le décrire plus précisément pour chaque partie du corps, si tu veux bien. Mais donc, c'est ça, bien marcher, c'est marcher avec tout son corps.
Oui, et moi, j'ajouterais que c'est aussi marcher avec sa tête, parce qu'il faut être confortable entre les deux oreilles. D'ailleurs, ça nous donne... C'est une pompe à oxygène, la marche. Quand elle est bien faite, on devrait normalement augmenter la part d'oxygène qu'on va chercher en inspirant.
Alors, si je comprends bien, vous dites que pour bien marcher, il faut d'abord bien connaître son corps, son anatomie et la façon dont notre corps fonctionne, n'est-ce pas?
C'est vraiment le préalable, c'est prendre conscience de son corps, de prendre conscience de comment je me tiens, comment je dépose les pieds, comment je balance les bras, est-ce que ça balance à partir des coudes, est-ce que ça balance à partir des épaules, et aussi... peut-être qu'avec des événements qui nous sont arrivés dans la vie, il y a des asymétries qui se développent. Tu sais, par exemple, Quelque chose de très banal, les femmes qui portent son sac à main sur la même épaule tout le temps, d'année en année, les décennies, bien, à un moment donné, il peut avoir une asymétrie des épaules. Puis on s'en rend pas compte, ça s'est infiltré dans notre vie comme ça. Alors, il y a toutes sortes d'anomalies. Il y a parfois, on sent qu'il y a des muscles de notre corps qui sont surutilisés par exemple, c'est souvent lié à notre travail ou lié à une pratique importante d'un certain sport, qu'on fait toujours les mêmes mouvements. Et ça, ben, ça a des répercussions. Le corps, il est heureux quand il est équilibré. Mm-hmm. Quand les muscles, il n'y a pas des muscles surutilisés, sous-utilisés, ils sont tous utilisés. Alors donc, première chose, c'est être conscient de son corps. Et notre corps nous envoie tout le temps des messages, parfois très discrets, et souvent les négliger, ben ces petits inconforts vont venir avec les décennies à des douleurs. Puis là on a conscience de notre corps quand ça fait mal. Mais il faut vraiment être à l'écoute de notre corps, puis à prendre conscience de comment est notre corps actuellement quand on marche.
Bien se servir de son corps, ça me fait penser à toutes les fois que je lève une boîte, par exemple. Le réflexe, c'est d'aller chercher la boîte sans trop y penser, mais il y a une façon correcte de lever une boîte lourde du plancher, par exemple, se plier les genoux, s'abaisser un peu et remonter la colonne droite et tout. C'est un peu ce qu'on dit, là. Il faut connaître son corps.
Absolument.
Il faut connaître comment s'en servir.
Utiliser les quadriceps dans ce cas-ci. Et c'est ça, oui. Il faut faire vraiment attention. On peut se faire des tours de rein.
Bon, alors je crois que nous sommes prêts à bien marcher. On commence comment? On fait quoi? Tout de suite après la pause. Thank you. Nous sommes de retour avec Marie-Lyn et Michel de Santé à pied. Je le disais juste avant la pause, nous sommes prêts à marcher. On commence comment? On fait quoi?
D'abord, la première structure à laquelle il faut faire attention. Hein? Et là, on est à la radio, nous ne sommes pas à la télévision. Alors, il va falloir que j'aille lentement pour bien vous décrire. La structure la plus géniale du corps humain, c'est d'abord la colonne vertébrale. Elle est verticale, mais elle n'est pas droite. Parce que si la colonne vertébrale était droite, nous n'aurions pas de contorsionnistes au Cirque du Soleil. Hein?
Mais nous aurions beaucoup de soldats, peut-être.
Probablement, oui. Mais donc, non, la colonne vertébrale, elle est là pour protéger notre système nerveux à travers les vertèbres. La moelle circule et va à partir des nerfs partout dans l'organisme. Cette colonne vertébrale, elle a une légère oscillation. Vous l'avez sans doute remarqué. Au niveau du cou, c'est un petit peu concave. Au niveau dorsal, c'est un petit peu convexe. Hein? Ça fait... Et ça revient ensuite concave au niveau des lombaires et légèrement convexe jusqu'au coccyx. D'accord? Donc, c'est très important parce que ce qui est génial avec la colonne vertébrale, c'est qu'on peut se tenir très droit avec une colonne qui est elle-même légèrement ondulée. Mais si j'accentue, par exemple, une de ces ondulations, et là, je vais parler du dos. Si j'ai effectivement les épaules longtemps dans ma vie affaissées, année après année, je vais développer dans le dos une sorte de bosse. Et en général, ça se produit à la septième cervicale et on l'appelle, les gens vont le reconnaître, la bosse du bison. C'est tout simplement parce que les vertèbres se défendent en quelque part du fait d'une mauvaise posture et vont s'adapter en créant une boule de chair, en fait. Et très souvent, ça se passe au niveau de la septième cervicale. Donc ça, c'est très important de prendre soin de sa colonne vertébrale et de s'assurer qu'est-ce que se tenir droit. J'ai dit tantôt que ce n'est pas une question d'avoir une colonne vertébrale droite. Elle est légèrement ondulée, mais par contre, je dois me tenir droit, me grandir. La tête doit être posée, effectivement, à 90 degrés sur la colonne vertébrale, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, la cervicale, la première cervicale qu'on appelle l'atlas, parce qu'on porte le monde sur nos épaules, c'est bien connu. Et, en fait, le repère que je donne aux gens habituellement, c'est assurez-vous, quand vous commencez à marcher, d'avoir le menton bien parallèle avec votre sentier ou sur le trottoir ou peu importe la surface sur laquelle vous marchez, vous devez vous assurer que votre menton est bien parallèle avec le chemin que vous parcourez. Les yeux sont faits pour voir, pour regarder, pour appréhender les obstacles. Ils sont mobiles et flexibles. Il faut s'habituer donc à appréhender les obstacles en les regardant avec les yeux, en les repérant avec les yeux, mais en évitant de pencher la tête. Parce que je vais vous montrer un petit, si je peux retrouver. Oui, voilà. Si je penche la tête de 15 degrés, ce qui est assez commun.
Vers l'avant.
Oui, vers l'avant. Je penche la tête vers l'avant de 15 degrés. Vous savez que la tête étant l'organe le plus lourd du corps humain, on parle de 5,5 kilos. Eh bien, si je penche de 15 degrés, l'équivalent de la pression qu'il va en résulter sur les vertèbres de ma colonne vertébrale est de l'ordre du double.
Le double?
Du double, OK? Oh. Et si je penche ma tête de 30%, pour les gens de 30 degrés, pour les gens, c'est très simple. Ils n'ont qu'à regarder et observer les gens qui attendent à l'arrêt d'autobus et qui pianotent sur leur téléphone intelligent. Habituellement, effectivement, ils ont à la fois la tête penchée, les épaules affaissées sur la poitrine, en train d'écrire. Et c'est très commun, c'est rendu très commun. Assis dans l'autobus, c'est pareil. Donc, effectivement...
Et même en marchant.
Et donc là, on a une pression équivalente sur les vertèbres de l'ordre de... si je le mets en kilos, je vais être rendu à autour de 22 kilos.
C'est beaucoup.
Et plus, et on en voit parfois qui sont à 60 degrés, et là, on tombe dans le 27 kilos. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que, dans le fond, c'est des traumatismes. Au début, on appelle ça un micro-traumatisme, hein, parce qu'on le fait une fois de temps en temps, mais ce n'est pas du tout, ça devient courant. Donc, ces micro-traumatismes vont engendrer des problèmes très importants et pas seulement des inconforts.
Donc, la tête droite, les yeux rivés vers l'avant, les épaules.
Exactement. Bon, les épaules, justement, on ne les laisse pas tomber, on ne les laisse pas s'affaisser, on les laisse tranquilles sur la ceinture scapulaire. Autrement dit, très souvent, lorsqu'on éprouve des problèmes au niveau des épaules, c'est souvent, ça se manifeste au niveau des trapèzes, hein, qui sont entre le cou et le bout de l'épaule, finalement. Mm-hmm. Ces muscles-là, si on les tire vers le haut, très souvent, parce qu'on est penché, effectivement, on va se retrouver « Ah, j'ai mal, j'ai l'impression d'avoir mal au cou », mais en fait, c'est les trapèzes que j'ai travaillés. Il faut laisser tout ça tranquille. Le mouvement du bras ne part pas des épaules, il part du haut de l'épaule, mais en fait, ce qu'on appelle la tête de l'humérus, vous savez, c'est cet os qui va du coude vers l'épaule et en fait, on a là le biceps et le triceps. On travaille avec ces muscles-là et on fait un balancement synchronisé, mais régulier.
Et ce que j'ajouterais pour les épaules, en fait, nous, on donne toujours des petits trucs aux gens qui leur font penser à bien mettre leurs épaules alignées, c'est-à-dire que les oreilles doivent être alignées avec le centre des épaules avec le centre des hanches. Mm-hmm. Alors, ce qu'on leur dit, c'est ayez les clavicules. Hein. Les clavicules, c'est les petits os là, qui partent du sternum, là, qui vont jusqu'à l'épaule. On leur dit ayez les clavicules souriantes. Donc, quand on a les clavicules souriantes, on ouvre les épaules. Et les épaules se mettent à leur bonne place, ce qui fait que la poitrine va plus s'ouvrir et ça va permettre une meilleure respiration.
Et j'ajouterais peut-être, bon, les épaules sont reliées évidemment au torse. Que se passe-t-il au niveau du torse, par exemple?
Oh oui, bon, le torse.
Oui, alors, écoute, le fait de s'ouvrir d'abord,
comme
Marilyn, s'ouvrir carrément, oui, ça nous donne une autre vision du monde. Et assez curieusement, cette semaine, j'accueillais des marcheurs qui étaient pour la première fois en entraînement et qui ont appris tout à coup à regarder et à voir le sentier dans sa totalité. Et jusqu'à maintenant, lorsqu'il marchait, il regardait plutôt la poussière de roche sur le sentier.
Parce que la tête était fixée.
Et voilà, parce que la tête est penchée
vers le bas.
Exact. Oui. Et on ne voit rien. On traverse l'espace, un espace de nature, mais on ne le voit pas, cet espace-là.
Alors, pour revenir au tronc, alors, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on marche? Alors, on a toujours une synchronisation de la jambe et du bras opposé. J'avance ma jambe droite, donc j'avance mon bras gauche. Alors, il faut comprendre que la colonne vertébrale offre une légère rotation. Parce que quand j'avance ma jambe, alors ma hanche, mon bassin avance avec la jambe. Et quand j'avance mon bras gauche, ben c'est mon épaule qui avance. Alors, il y a comme deux parties, la partie haute de notre tronc et la partie basse du tronc, qui pivotent d'une façon opposée. Alors, c'est ce qu'on appelle, tantôt on parlait de la ceinture scapulaire, ça c'est vraiment toute la région de l'épaule, et il y a la ceinture pelvienne, qui est toute la région du bassin. Alors, les deux ceintures vont faire une rotation opposée l'une par rapport à l'autre. Sauf que ce qui arrive actuellement, c'est qu'avec notre vie sédentaire, notre façon de vivre, tout le tronc, des épaules jusqu'au bassin, c'est pris comme un bloc de béton. Il n'y a rien qui bouge.
Mm-hmm, tout à fait.
Et pour avoir une marche fluide, active, il faut que tout soit mobile. Alors, dans le tronc, c'est mobile aussi. Et quand on n'a pas de mobilité dans le haut du corps, dans les épaules, bien, on ne peut pas faire un bon balancement de bras. Ça limite le mouvement. Fait que c'est important, cette mobilité.
Est-ce que j'ai noté aussi, lorsque le torse est dégagé, on respire beaucoup mieux?
Exact.
On peut augmenter la part d'oxygène qu'on va chercher dans l'air en se tenant bien droit et les épaules bien ouvertes.
Bien, justement, quand on baisse la tête, on revient encore à ça, bien, on comprime la gorge. Alors, les voies là, respiratoires, des narines, tout ça, bien, on le ferme. Même chose quand on est les épaules vers l'avant, on compresse notre poitrine. Alors, comment voulez-vous que nos poumons prennent de l'expansion? Il faut vraiment leur donner tout l'espace possible et s'ouvrir.
Et j'ajouterais, parlant des poumons, que la capacité que nous avons, non pas on n'agrandira pas les poumons, là, on se comprend. On a les poumons qu'on a. Sauf que c'est un peu comme avec un ordinateur. Moi, en ce qui me concerne, je travaille peut-être avec le millième des capacités de l'ordinateur. Bien, les poumons, c'est 300 millions d'alvéoles au niveau des bronches. Est-ce qu'on les exploite parfaitement? Absolument pas. On inspire 20 à 22 000 fois dans 24 heures. On en est conscient que quelques respirations, si on décide de prendre une respiration profonde, mais en général, on ne va pas chercher l'oxygène qu'on pourrait aller chercher.
Donc, on respire mieux, on accepte davantage d'oxygène.
Oui.
Écoutez, on assimile tout ça pour quelques secondes et on revient tout de suite après la pause et parler des cuisses et des fessiers. Alors, en compagnie de Marilyn et de Michel, nous apprenons comment bien marcher. Et nous en sommes rendus aux cuisses et aux fessiers. Marilyn, à vous.
Oui, bien, vous savez, les fessiers, je crois que les gens pensent en général que c'est des bons coussins pour s'asseoir. Mais ce n'est pas ça. Les fessiers, c'est des muscles importants de notre corps qui nous servent à être en équilibre. Quand on trébuche, c'est les muscles des fessiers qui nous ramènent en équilibre. Fait que c'est important d'avoir ces muscles bien renforcés. Et comment on fait pour... Parce qu'on peut très bien marcher sans que les fessiers travaillent. Et on peut aussi très bien marcher sans que les cuisses arrière travaillent. Ça va être plutôt la cuisse en avant parce qu'on avance notre jambe. Donc, c'est le quadriceps qui amène notre jambe. Alors, comment on fait pour travailler les fessiers et les cuisses arrière de façon active. Bien, ça va être grâce au déroulement du pied. Et on va en reparler davantage. Mais quand on déroule le pied, c'est-à-dire qu'on ne met pas le pied talon et simultanément, d'un coup, toute la surface du pied. On va plutôt le dérouler en quatre parties. Le talon, la voûte plantaire, le devant, là, juste avant les orteils et toutes les orteils. Et quand on fait ce travail de déroulement de pied, bien, notre jambe en arrière, elle est en extension et la cuisse travaille et vous savez, c'est toutes des chaînes musculaires qui sont liées l'une à l'autre. Alors, si on travaille bien les muscles sous le pied, c'est rattaché aux muscles du mollet, de la cuisse arrière et des fesses et des muscles fessiers. Et c'est dans cette condition qu'on met en marche ces muscles importants des jambes.
Et juste pour ajouter à cet égard-là, beaucoup de marcheurs nous demandent, de marcheuses en fait, parce que la plupart des gens qui viennent vers nous, ce sont des femmes.
Et pourquoi?
Assez curieusement, ça fait 15 ans nous qu'on donne des entraînements de marche. On a des groupes de marche. Habituellement, par exemple, sur 10 femmes, on va avoir un homme. Si j'ai 20 femmes, je vais avoir deux hommes.
Je ne sais pas, peut-être parce que les hommes ne trouvent pas que la marche est une vraie activité physique. Je pense qu'il y a un mythe peut-être là, qu'il faudrait démystifier. Ben oui, non, la marche est un exercice physique complet et important quand on parle de santé globale du corps.
C'est ce que l'on fait en ce moment. Alors, oui. Michel, oui. On en vient peut-être au point sensible pour plusieurs personnes.
Oui.
Les genoux, oui. J'ai des amis, des connaissances qui se sont fait remplacer des genoux, qui étaient mal en point depuis des années. Parlons genoux. Est-ce que le genou, c'est effectivement le point le plus sensible de l'ossature? Que faut-il faire pour les protéger?
Bon, alors, je vais préciser au départ que moi, je ne suis pas un physiothérapeute, là, et je peux aller ici pour vous dire comment ça marche. Okay? Tout ce que je peux faire, c'est un témoignage, cependant, parce que vous comptez maintenant une nouvelle connaissance qui a les genoux mal amochés. C'est moi. En fait, j'ai trop fait de jogging. Ça, ouais, c'est très clair. J'aurais dû me mettre à la marche bien avant, mais j'étais comme beaucoup. Je ne pensais pas que la marche était un exercice physique conséquent. Alors, mais le jogging, oui, ça, c'était sérieux, ça, c'est vrai. Or, je me suis rendu compte, finalement, depuis 15 ans, et grâce à Marilyn beaucoup, parce que c'était la première dans la cohorte au Québec à introduire la marche nordique. Et là, j'ai vraiment changé complètement ma perspective à cet égard-là. Et j'aurais sauvé mes genoux. Pourquoi? Parce que, en fait, les genoux, c'est des ressorts. Et si on les utilise bien, ces ressorts-là, on ne les endommagera pas. Et très souvent, ça vient du fait qu'on choque le pied sur le sol et ça vient effectivement résonner dans nos articulations, nos cartilages. Moi, ce que je fais, en fait, quand on est en descente, je dis aux gens, baissez votre centre de gravité. Autrement dit, laissez vos genoux libres de toute tension.
Les laisser en fixation.
Faites comme quand vous descendez, je descends en faisant bien attention de ne pas laisser une trop grande empreinte écologique sur le sol.
C'est-à-dire en marchant.
Voilà, en marchant. Oui. Absolument.
Okay. En ayant les genoux flexibles,
détendus. C'est ça, en flexion. Ça ne nous empêche pas d'ailleurs de garder une très bonne attitude et une très bonne posture, mais on y va plus lentement quand on descend parce que en montagne, qu'est-ce qui est le plus dur?
C'est descendre. Voilà. Effectivement, oui. À pas feutrer, disons.
Et j'ajoute aussi le fait de dérouler le pied. Le dérouler le pied, c'est comme un autre amortisseur. Alors, c'est beaucoup plus doux pour les genoux. On ne laisse pas tout notre poids tomber sur les genoux des articulations. D'abord, on va se tenir. Mm-hmm. Et puis aussi, on va dérouler le pied. On va avoir les genoux un peu plus fléchis. Et là, ben, c'est des amortisseurs pour les articulations, on les protège.
Et on pourrait dire que c'est aussi un avantage pour les chevilles, et c'est aussi un avantage pour les hanches, parce que les hanches, les genoux et les chevilles sont les trois articulations importantes là, du mouvement de la jambe. Dans ce cas du pied, c'est autre chose, là, mais c'est vraiment... Et dans le déroulé du pied, on va ressentir très bien, si on le fait bien, si on se propulse avec les orteils, on va sentir le tendon d'Achille, on va sentir tout le reste du corps, les ischio-jambiers qui sont derrière les cuisses et les quadriceps qui sont devant.
Les fessiers.
Donc, les adducteurs, les extenseurs, enfin, il y a toutes ces... Et c'est dans ce sens-là qu'on parle d'une marche globale, d'une marche avec une approche holistique. Parce que c'est tout le corps, dans le fond, qui va du gros orteil jusqu'à la fontanelle, là, au-dessus de la tête, là. Tout est embarqué, engagé dans ce mouvement-là.
Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut trop peu marcher, trop peu utiliser les genoux et peut-être trop comme les joggeurs? Est-ce qu'il y a un juste milieu en quelque part? En d'autres mots, est-ce qu'on fait l'apologie de la marche au quotidien pour s'assurer que tous les jours...
Absolument. Je pense que... Puis l'OMS le dit également. 30 minutes par jour, c'est pas énorme. Si vous avez un beau parc urbain près de chez vous, dans votre voisinage, dans votre quartier, allez-y, ne vous en privez pas. Il y a peut-être même des arbres là, qui vous attendent pour que vous puissiez les admirer. Ils sont tous en couleur.
Et leur parler.
Et les écouter, effectivement.
Alors, ça fait, bon, beaucoup de choses à se rappeler. Mm. Est-ce que vous avez une formule pour résumer tout ça, lorsque nous marchons, nous soyons vraiment conscients de ce que nous faisons?
Oui, je pourrais dire ça, mais peut-être on oublie les bras. J'aimerais peut-être parler des bras, parce qu'ils sont importants, les bras. Oui. Ils aident vraiment à avoir un équilibre. Alors, les bras se balancent d'en avant en arrière, mais c'est une... Il ne bouge pas parce qu'il y a du mouvement, parce qu'on avance. C'est nous qui décidons. On fait marcher nos bras, en quelque sorte. Alors, les bras sont actifs. On décide de les rendre actifs et ce mouvement part de l'épaule. On voit beaucoup de gens qui font un mouvement à partir du coude. Souvent, les mains sont vers le centre. Mais non, les deux bras sont dans la continuité de leur épaule à la verticale, et on part le mouvement de l'épaule. Et le balancement des bras, on va en avant et on va en arrière. Souvent, on arrête à la taille, on arrête aux hanches. Mais non, c'est comme une pendule d'une horloge grand-père. La pendule, elle va en avant, elle va en arrière aussi. Alors, c'est un bon balancement de bras qui va aussi contribuer à l'équilibre dans la marche.
Et on voit souvent des gens, et je le fais parfois, j'avoue, marcher les mains dans les poches. Mm-hmm. C'est à prescrire, j'imagine.
Oui, parce qu'on se prive d'éléments qui nous aident à rester en bien équilibre. Et puis, s'il y a un obstacle, le fait de balancer nos bras va être beaucoup plus, favorable à nous remettre en équilibre qu'avoir les deux mains dans les poches. Et là, on tombe.
Donc, Michel, on revient à votre formule.
Oui.
En fait, c'est se tenir. Pour moi, c'est se tenir. Si on marche, on doit bien se tenir. Et bien se tenir, c'est aussi se grandir. Et finalement, c'est ça, se grandir, se tenir, et ça mène quoi? À l'alignement complet. L'alignement complet, là, c'est très simple. Mettez vos pieds à peu près pas plus larges que vos hanches, et faites en sorte que la pointe de vos pieds... soit en ligne avec votre genou en ligne avec vos hanches, et ainsi de suite jusqu'à la tête. Autrement dit, vous êtes parfaitement aligné, et donc il n'y a pas d'asymétrie possible. Vous corrigez des choses. Mais je voudrais cependant mettre les gens en garde. Quand on commence un entraînement, il faut faire preuve d'une très grande humilité par rapport à soi, et d'une grande patience. Cet engagement-là est un engagement à court, moyen et long terme. On parlait tantôt d'un mode de vie, c'est quasiment une question d'hygiène personnelle, et il faut savoir que même si j'ai absolument cet après-midi absorbé tous les éléments qu'on a donnés, il faut pas comprendre qu'on va faire ça d'un coup, là, automatiquement et de façon spontanée.
Il faut pratiquer, répéter. Voilà. Pratiquer régulièrement. Alors, avant de passer à la pause, je reprends votre formule. Bien marcher, se grandir, s'aligner, se tenir et être vigilant.
Voilà. We'll be right back.
Nous sommes de retour avec Marilyn et Michel pour la dernière partie de notre entretien cet après-midi. Donc, on le disait, se grandir, s'aligner, se tenir, être vigilant. Oui, on comprend. Mais comment savoir si on marche bien? Comment on se sent quand on marche bien?
Je pourrais vous dire, observer les gens qui marchent. Quelqu'un qui marche de façon passive, on le voit... ça donne une allure, j'irais, affaissée, passif, où les bras bougent à peu près pas, où il regarde sur le sol. Et regardons maintenant quelqu'un qui marche de façon active, on voit que cette personne-là a déjà une allure plus jeune, parce que énergique, parce que cette personne se tient, parce que sa colonne vertébrale est allongée, ce qui fait que la tête, le cou ne rentre pas dans la poitrine, puis le tronc ne s'affaisse pas sur le bassin. On dirait que la personne n'a pas de taille puis n'a pas de cou. Au contraire, quelqu'un qui marche bien de façon active, elle a une impression d'avoir un long cou, une longue taille, et c'est vraiment l'extension optimale de notre colonne vertébrale. Et en se tenant, on n'a pas parlé beaucoup, mais les abdominaux rentrent en ligne de compte parce que notre colonne vertébrale est tenue par les muscles dorsaux, mais les muscles abdominaux aussi, ils sont en complémentarité. Alors, quand on se tient, on voit que la personne a une énergie qui va vers le ciel et non pas vers le sol comme la gravité nous voudrait nous amener. Alors, on défie cette gravité-là et on voit dans un marcheur qui marche de façon active, que ses bras sont actifs, ses pieds sont actifs, ses orteils sont actifs, et ses orteils l'amènent à se propulser vers l'avant, le pas est léger et on sent bien. Marcher vers le bien-être, là, c'est vraiment ça.
Et en fait, on voit très bien de cette personne-là qu'elle ne porte pas son corps comme un fardeau. Alors, son corps ne doit pas, et notre corps ne doit pas être un fardeau qu'on traîne à la clinique médicale pour l'empoisonner, excusez-moi l'expression, mais par toutes sortes de médicaments chimiques.
En fait, c'est ça, l'idée...
C'était mon petit commentaire.
Alors, poursuivons sur cette lancée. Michel, pourriez-vous, en quelques mots, nous résumer les bienfaits de la marche active?
Oui. Alors, les bienfaits de la marche active, d'abord, on va parler du système osseux et du système musculaire. Les deux travaillent comme un tango, en fait. Les os et les muscles travaillent ensemble et se renforcent mutuellement. Okay? Cette fermeté qu'on cherche sur le plan musculaire, on va aussi l'avoir au niveau de la solidification des os. D'accord? Mais ne pensez pas, par contre, le faire dans une journée, tout ça, c'est impossible, ça se fait sur le long terme. Okay? Alors, ensuite, le système nerveux. Ben là, le système nerveux, c'est un peu normal. On est tellement sollicité, il y a tellement de choses d'ailleurs qui se passent autour de nous. On écoute les informations, tous les éléments qui nous sollicitent là, dans une société de consommation mettent nos nerfs à vif. La marche vont vous ralentir, vont vous donner autre chose. D'abord, de vous permettre d'apprécier le fait que vous respirez bien, que vous marchez et vous êtes heureux ou heureuse de marcher avec... Moi, ce que j'appelle un peu le syndrome de la marche de la femme africaine. La femme africaine qui met une amphore sur sa tête, qui marche 5 km pour aller l'emplir à son puits et revenir à la case, sans renverser une seule goutte d'eau, elle marche très droite. Mais entendons-nous, c'est toujours dans l'esprit d'une colonne vertébrale qui est solide, flexible, et c'est une marche qui est tellement En fait, c'est la dignité de l'être humain qui est en jeu là, quand on parle d'une marche qui est bien engagée et que les gens sont dans la marche. Ils s'habillent avec la marche.
Et un des bienfaits, bien sûr, c'est le bienfait mental, justement. Michel t'en parlait. En fait, quand on est stressé, le fait de marcher nous amène à d'abord à se ralentir. Et quand on se ralentit, ben on prend contact avec soi-même, on respire, on regarde, et tout ça, ben ça nous calme et ça nous apaise.
Alors là, je me mets à la place de nos auditeurs, nos auditrices ou certains et certaines. Est-ce que je peux réapprendre à marcher à n'importe quel âge? Moi, j'ai 72 ans, je marche depuis toujours. J'ai heureusement réappris à marcher il y a quelques semaines ou quelques mois et je m'en porte très bien. Est-ce possible pour tout le monde à 72 ou 80, 90? Y a-t-il un âge où on ne peut plus apprendre à marcher?
Ben, on réapprend à marcher à tout âge. En fait, il s'agit de se reprogrammer, parce que, comme je l'ai dit en introduction, on a des mauvaises habitudes de posture et tout ça qui se sont placées dans notre vie sans en rendre compte sur plusieurs années. Alors, donc, il faut reprogrammer notre cerveau, reprendre conscience des défauts de notre marche, de notre posture, corriger, mais ça prend, comme Michel dit, du temps, mais on peut se reprogrammer à tout âge.
D'ailleurs, on peut dire que pour un sujet qui n'est pas entraîné, là, une personne qui ne s'est pas entraînée, mais qui commence à s'entraîner, je peux vous dire qu'elle va augmenter au fur et à mesure son endurance, parce qu'un bon programme d'entraînement de marche peut augmenter votre capacité d'oxygénation jusqu'à 30%. Et ça veut dire beaucoup plus d'endurance. Donc, vous allez le remarquer à toutes les fois que vous allez faire votre entraînement de marche. Au bout de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez voir, ah, j'ai commencé à faire 2 kilomètres, puis j'étais fatigué. Et aujourd'hui, au bout d'un mois, j'en fais 4. Et je suis reposé.
Donc, il faut défaire les anciennes habitudes.
Prendre conscience.
Et souvent, ça prend du temps, de la patience et de la conscience.
Et le grand âge, là, ça va pas avec l'inactivité. C'est faux. On peut rester actif. Moi, j'étais malheureux dans la pandémie d'entendre que les gens qui étaient en RPA, là, les résidences pour aînés, surtout dans la première vague, ne puissent pas sortir de leur appartement, alors que beaucoup de ces gens-là qui auraient été plus en santé en allant au moins marcher. Voilà.
Alors, je me pose une autre question, peut-être la dernière de notre entretien. Nous voulons changer d'habitude. Vous nous avez donné toutes sortes de trucs, de bonnes habitudes à prendre. Et cela implique que je dois être très conscient lorsque je marche. Mais moi, j'aime le côté social. Lorsque je marche, j'aime parler à mes voisins, aux gens qui marchent avec moi. Alors, il y a cet aspect de marche méditative, si j'ai bien compris ce que vous disiez, et la marche sociale, comment réconcilier les deux? Il est difficile, j'imagine, d'être très conscient, méditer en parlant à son voisin.
À moins de faire de nos amis avec lesquels on a l'habitude de marcher des partenaires de la marche.
Oui.
Autrement dit, écoutez, on va jaser puis on va se donner des nouvelles peut-être en prenant un café à la fin de l'entraînement. Mais si on fait un entraînement, par exemple, et qu'on est 2 personnes, au lieu de papoter pendant tout le long, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, ça veut juste dire que je ne suis pas dans ma marche. Alors là, j'ai un choix à faire. Soit que je suis dans ma marche, mais avec toute la vigilance que ça implique, la posture et tout ça, surtout au début, il y a tellement de choses à vérifier que c'est mieux de le faire en silence et surtout de ne pas s'empêcher d'aller chercher le surplus d'oxygène qu'on peut aller chercher. Je le disais tantôt, on peut augmenter notre capacité d'oxygénation de 5 à 30. Donc, ça vaut vraiment la peine à ce moment-là, mais pourquoi pas s'en faire complice avec nos amis?
J'ajouterais que Il faut se donner du temps pour prendre conscience de nos mauvaises façons de marcher et de reprogrammer, comme on l'a dit tantôt. Mais avec le temps, tout ça s'intègre. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai des marcheuses qui me suivent depuis des années et qui maintenant savent bien marcher. Alors, je leur dis, OK, aujourd'hui, on fait attention à ça. Mais si vous voulez parler à votre voisine, bien, soyez et dans la marche et dans votre conversation si vous êtes capable de faire les deux. Si vous n'êtes pas capable de faire les deux, revenez dans votre corps. Parce que vous êtes venu pour ça, pour prendre tous les avantages de cette marche que vous avez entreprise ce matin.
Chers amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous apprendre, pour nous mettre sur la route, si on veut, de bien marcher. Nous nous en sentirons beaucoup mieux, toutes et tous, bien entendu. Et j'ai le goût de terminer avec, encore une fois, votre formule, se grandir, s'aligner, se tenir et être vigilant. Mm-hmm. Marilyn, Michel, merci beaucoup.
Merci. Bienvenue. À toi, Denis.
Chers amis, aujourd'hui, je consacre notre capsule des grands marcheurs et grandes marcheuses à Frédéric Gros. Professeur de philosophie à l'Université Paris-Est-Créteil, Frédéric Gros est l'auteur d'un de mes livres préférés sur la marche, « Marcher, une philosophie ». Sa philosophie de la marche est simple. La marche, dit-il, on n'a rien trouvé de mieux pour aller plus lentement. Pour marcher, il faut d'abord deux jambes. Le reste est vain. Allez plus vite, alors ne marchez pas, faites autre chose, roulez, glissez, volez. Ne marchez pas, car marchant, il n'y a qu'une performance qui compte, l'immensité du ciel, l'éclat des paysages. D'ailleurs, Frédéric Gros annonce ses couleurs dès la première page de son livre. Marcher n'est pas un sport. Marcher n'est pas un sport. Au fil de quelques 300 pages d'une lecture que j'ai trouvée captivante, il propose une série de méditations philosophiques sur la flânerie, l'errance, le pèlerinage, comme autant d'exercices spirituels. Et il le fait en compagnie de ce qu'il appelle des penseurs en semelle, tels que Rimbaud, Rousseau, Thoreau, pour ne nommer que ceux-là. Alors, pour vous mettre davantage sur la route de ce bien-être, j'ai choisi quelques citations tirées de ce livre et autres ouvrages de Frédéric Gros. Par exemple, « On ne marche pas pour tuer le temps, mais pour l'accueillir, l'effeuiller au fil des pas, seconde, pétale. » Au moment où on n'attend plus rien du monde, dans ces marches inutiles et tranquilles, alors il se livre, se donne, s'abandonne. Quand on n'attend plus rien, tout est donné, alors comme supplément, grâce gratuite de la présence. La marche fait apparaître avec le repos la plénitude, cette joie seconde, plus profonde, plus fondamentale, liée à une affirmation plus secrète. Le corps respire doucement. Je vis. Je suis là. Marcher, comme on dit, cela vide la tête. Bien autrement, marcher remplit l'esprit d'une autre consistance, pas celle des idées ou des doctrines, pas au sens d'une tête bourrée de phrases, de citations, de théories, mais pleine de la présence du monde. Marcher est une question non seulement de vérité, mais aussi de réalité. Marcher, c'est faire l'expérience du réel. Rien ne vaut de rester assis à son bureau quand la réflexion est bloquée. Il faut se lever et faire quelques pas. Marcher afin de se donner du mouvement et que, de cet élan du corps, les pensées prennent impulsion et redémarrent. Dans la marche, on trouve des moments de pur plaisir, la saveur de framboise ou de myrtille, la douceur d'un soleil d'été, la fraîcheur d'un ruisseau. Je marche pour sortir des continuités harassantes de la vitesse, des aliénations de la précipitation, pour que se produise en moi la possibilité de ces moments de réforme où je m'en sens capable enfin de redevenir moi-même, pour moi-même, une aventure. Et enfin, je veux dire que marcher, c'est un jeu d'enfant, s'émerveiller du jour qu'il fait, de l'éclat du soleil, de la grandeur des arbres, du bleu du ciel. Je n'ai besoin pour cela d'aucune expérience, d'aucune compétence. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine notre émission de Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que vous trouverez les références pour notre épisode d'aujourd'hui, de même que tous les autres épisodes, sur le site jemarchepartout.com. Rappel aussi que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les mercredis à 11h et que les émissions sont disponibles sur le site de Radio-VM sous l'onglet « Émissions archivées ». Je tiens encore une fois à remercier de leur participation Marie-Lyne Étier et Michel Desgagnés de Santé à pied. Et bien sûr à la technique, Valérian Fournier pour son amicale collaboration. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. À bientôt!